À l'occasion du cinquième centenaire de la réforme de Martin Luther, nous vous proposons cette deuxième conférence du temps de carême, enregistrée au couvent des Dominicains de Toulouse, sur le thème « Hors de l'Église, point de salut » avec pour conférencier frère Benoît Dominique de la Saujolle. Bonne conférence à tous.
Alors merci pour cette invitation qui me donne la joie de retrouver Toulouse avant l'été. Et avec un beau temps, ce qui n'est pas exactement le temps qu'on a en Suisse à l'heure actuelle, donc c'est plutôt bien. Donc, le Christ seul, et pourtant, c'est le titre de la conférence, hors de l'Église, point de salut. Le Christ seul, alors bien sûr, le Christ est le seul médiateur, l'unique médiateur, comme dit saint Paul à Timothée, et l'affirmation de saint Paul est trop claire, bien sûr, pour qu'aucune interprétation puisse en affaiblir le sens. C'est le Christ qui nous sauve comme seul médiateur entre Dieu et les hommes. Cette affirmation d'ailleurs est reprise dans l'article dit capital, c'est-à-dire vraiment en tête, de la fameuse déclaration de Spalkalde de 1538, qui est un des grands textes fondateurs de la Réforme. On lit ceci, dans cet article capital, je cite, « Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur, est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, citation de la lettre aux Romains, lui seul est l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, citation de l'évangile de Jean. » Et cet article capital, donc lui seul, Luther précise que cet article capital n'est pas négociable et que toute la doctrine qu'il prêche et qui fait l'objet des articles suivants repose sur cet article. C'est pour ça que c'est l'article capital. Alors, dit comme ça, on pourrait se demander qu'est-ce qui pourrait bien nous séparer avec nos frères réformés. Et ici, je vous rends attentif à un point. Ce qui nous sépare des frères réformés n'est pas dans ce qu'ils affirment, c'est dans ce qu'ils nient. C'est un principe, entre guillemets, d'interprétation de la réforme. Dans toutes les affirmations des réformés, nous sommes d'accord. Dans toutes les négations des réformés, nous ne sommes pas d'accord. Pour Luther, affirmer que seul le Christ nous sauve signifie en effet que rien d'autre n'intervient dans notre salut qui ne relève que de l'acceptation personnelle du Christ par chacun de nous. Et c'est là, évidemment, qu'intervient la question de la communauté chrétienne, l'Église. Dans la vision catholique et orthodoxe, l'affirmation du Christ comme seul sauveur, qui est évidemment tenue à partir de saint Paul, cette affirmation du Christ comme seul sauveur n'exclut pas, mais au contraire appelle l'adage bien connu depuis le IIIe siècle chrétien, « Hors de l'Église, point de salut ». Cela veut dire qu'il y a un lien extrêmement profond entre le Christ et l'Église, de sorte que ce que l'on dit du Christ, d'une certaine façon, il faut le dire de l'Église. Affirmer le Christ seul ne signifie pas l'Église. Être sauvé, c'est être membre de ce corps dont le Christ est la tête. De sorte que nous ne disons pas le Christ seul, mais nous disons bien plutôt le Christ total, et toute la différence est là. Car le Christ total, l'expression est de saint Augustin, le Christ total, c'est la tête plus le corps. Et comme vous le savez, la tête et le corps, ça ne fait pas deux, ça fait un. C'est ça que je vais essayer de montrer. Le Christ total, la tête et ses membres. À vrai dire, Luther n'a pas récusé purement et simplement l'adage « hors de l'Église, point de salut », dire que être sauvé, c'est être membre de ce corps dont le Christ est la tête, est trop explicitement et clairement présent chez saint Paul pour être ignoré ou rejeté. Mais c'est dans la conception de l'Église que Luther offre une compréhension nouvelle. À vrai dire, pas tout à fait nouvelle, en ce sens que un certain nombre de mouvements réformateurs qui ont précédé Luther, on a en tête par exemple le mouvement en Bohême de Jean Hus, par exemple, ou en Angleterre de Wycliffe, chercher dans cette direction. Mais c'est avec Luther que l'affirmation s'est faite la plus massive, si j'ose dire, et a rencontré un écho considérable dans la chrétienté. Cette nouveauté luthérienne, d'abord, porte sur deux points majeurs. Le premier point, c'est la participation de l'Église au salut. Nous sommes bien d'accord avec nos frères protestants pour affirmer que le beau mot de communion est comme, d'une certaine façon, la définition de l'Église. L'Église est une communion, elle est même la communion. Elle est la communion à la vie de Dieu, Trinité, et par conséquent, communion entre nous, puisque nous partageons la même vie. Mais nous comprenons cette affirmation de façon très différente. Il ne faut pas s'arrêter aux mots, il faut aller jusqu'à la signification des mots. Quelle est la nature de cette participation de l'Église à la vie de Dieu, à la vie de la Trinité? De la compréhension qu'on aura de cette participation découle la compréhension qu'on aura de la place et du rôle que la communauté chrétienne a dans le salut, la place et le rôle que les membres du corps ont dans la vie du corps. On peut résumer la divergence fondamentale avec Luther, catholique orthodoxe d'un côté et luthérien de l'autre, de la façon suivante. Pour les catholiques et orthodoxes, parce que le dialogue œcuménique avec l'orthodoxie ne porte absolument pas sur la nature de la communauté chrétienne. Pour les catholiques et orthodoxes, l'Église est de quelque façon homogène au Christ, comme le corps est homogène à la tête. Il y a donc une continuité profonde du Christ à l'Église qui permet au Christ de se communiquer dans l'espace et dans le temps par et dans les membres de son corps. L'Église ainsi assure une permanence ininterrompue dans le temps et dans l'espace du Christ lui-même. Saint Paul exprime cela en particulier par le mot de plérôme, qu'on traduit en général par plénitude. Saint Paul dit que le Christ est la plénitude. Et il dit aussi que l'Église est la plénitude du Christ. Il faut bien comprendre, l'Église n'ajoute rien au Christ. Elle en est remplie pour le manifester et le donner. On pourrait dire que l'Église, en raison de cette plénitude du Christ qui est en elle, l'Église, la communauté chrétienne, est comme un épanchement du Christ, parce que justement le Christ est en elle. C'est ainsi, par exemple, que la prédication ecclésiale que nous entendons ici et aujourd'hui, eh bien, c'est la prédication du Christ, et non pas du Père Machin ou du Père Truc. Et ça, saint Paul déjà le disait aux Thessaloniciens. Il disait ceci: « Je rends grâce à Dieu, chers frères thessaloniciens. » Ma secrétaire à Fribourg vient de Thessalonique, donc quand je dis des textes pareils, je pense à elle, bien sûr. Mais, « Vous avez reçu, mes chers frères thessaloniciens, la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Et vous l'avez reçu non pas comme une parole d'homme, alors que c'est bien Paul qui parle, mais pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voyez cette conjonction tête-corps, Christ-communauté chrétienne, le Christ qui est le prédicateur par excellence, il n'y a ni plus ni mieux, hein, cette conjonction avec Paul qui est un homme et qui n'est que un homme qui parle. J'entends Paul qui parle et ce qui rentre par mes oreilles dans mon esprit, c'est la parole de Dieu. Je ne vais pas vous démontrer une chose pareille, c'est un mystère, mais je vous montre où il est, le mystère. Il est dans cette conjonction. J'entends un homme et j'écoute Dieu. C'est dire que la conjonction est extrêmement profonde et intime. Un peu comme saint Paul voulait le faire comprendre en disant il y a la tête et le corps. Ben, la tête et le corps, ça ne fait pas deux. Ça fait un. Ça ne fait deux que quand vous le tuez. De même, la célébration eucharistique nous donne-t-elle le Christ? Mais c'est vraiment lui, vraiment, réellement, puis ça ne suffit pas, substantiellement, c'est lui. Et pas seulement en symbole. Pour nos frères protestants, l'Église est double. Il y a ce qu'ils appellent, depuis Luther, l'Église invisible, qui est formée de tous ceux qui vivent de la grâce du Christ. Et puis il y a, de l'autre côté, si je puis dire, l'Église visible, qui est une institution de type sociologique, nécessaire, bien sûr, aux conditions de notre monde présent. On n'est pas encore des anges. Bien. Mais ces deux églises ne communiquent pas. C'est là le problème. Voyez la différence entre dire l'église visible et l'église invisible. Et ça fait deux, parce qu'on peut faire partie de l'une sans faire partie de l'autre. Par exemple, celui qui ne vivrait pas de la foi en Christ et qui néanmoins continuerait d'aller à la célébration de la Sainte Cène. Par exemple, ça c'est visible. C'est une disjonction. Alors, ce vocabulaire est typiquement protestant, hein, église visible, église invisible. Je dis à mes étudiants à Fribourg, s'il y en a un à l'examen, qui me parle de l'église visible, il a zéro. Hein. Parce que c'est une faculté de théologie catholique hein, à Fribourg. Ça, en général, ils le retiennent. Et je ne l'ai pas à l'examen. Hein. Parlez-moi de la visibilité de l'église ou de l'invisibilité de l'église, c'est toujours un singulier. Hein. Ça, je suis d'accord. Hein. Ce que vous voyez, c'est la visibilité du père de la Soujolle. Mais il y a en moi une âme invisible. Hein. Ça, vous ne la voyez pas. Mais ça ne fait pas deux. Le père de la Soujolle, c'est les deux. Vous voyez ? Donc, ne me dites pas le père de la Soujolle visible et le père de la Soujolle invisible. Ça ferait deux. Et moi, je suis un. Voyez-vous ? Mais la visibilité d'eux et l'invisibilité d'eux, ça, oui, on peut le dire. Vous voyez ? Ce ne sont pas des nuances gratuites, cela. Et quand je vous dis que la perception de la communauté chrétienne par Luther est avec des nuances, mais de manière assez comparable chez Calvin, il y a vraiment deux églises et qui ne communiquent pas parce qu'on peut faire partie de l'une sans faire partie de l'autre. Et être sauvé, c'est faire partie de l'église invisible. Et alors comment vous pouvez la connaître? Personne ne la connaît. Dieu seul la connaît. Vous voyez le dualisme dans lequel s'inscrit cette pensée. La conséquence, c'est que tout l'ordre des médiations, des intermédiaires, hein, que le Christ a institué pour nous toucher ici et maintenant, c'est-à-dire la parole de ses envoyés, les sacrements, hein, tout ça c'est visible, c'est palpable, c'est audible. Eh bien, si l'on a deux églises, la visible et l'invisible, tout ce qui fait partie de l'invisible n'appartient pas à l'essence, si je puis dire, de l'Église. Ça passera avec ce monde, n'est-ce pas? Et cet ordre de médiation est donc privé de toute puissance, de toute valeur véritable. Or, dans la perspective catholique et orthodoxe, ce sont ces médiations-là, principalement la prédication et les sacrements, qui nous donnent, dans la communauté chrétienne, le Christ lui-même, présent ici et maintenant. La conséquence est claire, parce que nos frères protestants sont extrêmement rigoureux. C'est une pensée très rigoureuse. Hein, si vous acceptez les prémices, les principes, vous irez jusqu'au bout. Hein, parce que c'est très rigoureux. La conséquence, c'est que dans les communautés protestantes, il n'y a pas de ministère ordonné. Puisque la raison d'être du ministère ordonné, c'est de porter la parole et de célébrer les sacrements. Il n'y a pas cette continuité apostolique. Il n'y a pas le sacrement de l'ordre, mais tout fidèle peut, selon ses capacités, selon aussi son consentement, prêcher, présider un culte, etc. Nos frères protestants reconnaissent le sacerdoce baptismal, nous aussi, dans ce qu'ils affirment, nous sommes extrêmement proches, pour ne pas dire en commun. Mais l'accent qu'ils mettent sur le sacerdoce baptismal leur fait exclure le sacerdoce ministériel. Ils nient le sacerdoce ministériel. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Quel est le fondement, vraiment, de cette perception protestante? Ici, je voudrais vous rendre attentif à un point. Il faut être prudent, et je vais l'être maintenant, plus que tout à l'heure, il faut être prudent quand on parle en général du protestantisme. C'est une façon de parler très catholique, hein, et donc pas très protestante. Pourquoi? Parce que pour nous catholiques, nous avons une culture de l'unité, et pas seulement invisible, mais bien visible et audible. Nous avons une unité liturgique, nous avons une unité doctrinale, il y a un catéchisme de l'Église catholique chez nous, qui permet de dire que le catholicisme pense ceci ou ne pense pas cela. On sait ce qu'il en est, d'accord ou pas d'accord, c'est autre chose, mais au moins on sait ce qu'il pense. Bien. Vous n'avez absolument pas l'équivalent chez nos frères protestants. Dans les communautés qui sont issues de la Réforme, ces communautés qui sont visibles, bien évidemment, qui sont instituées, elles peuvent être extrêmement diverses. Et parfois même opposées, pas seulement au catholicisme, mais entre elles. Dans leur pratique liturgique, vous avez des communautés protestantes qui accueillent des non-baptisés à la Sainte Cène à égalité avec les baptisés, et d'autres communautés protestantes qui le refusent. Ces communautés peuvent être opposées même dans leurs textes doctrinaux. Vous avez, des communautés qui, au point de vue doctrinal, n'ont pas un message semblable en ce qui concerne le Saint-Esprit, par exemple, notamment chez les pentecôtistes et autres. Vous avez quelques pasteurs à Genève qui ont des doutes sur la divinité du Christ. Ça ne les empêche pas d'être pasteur. Tandis que si le curé de la paroisse du Rosaire avait des doutes sur la divinité du Christ, le soir même, il ne serait peut-être plus curé. à tout pécheur, miséricorde, mais à tout curé, la vérité de la foi. Jusque dans leur message moral, il y a une dizaine d'années en Suisse, la Fédération des Églises protestantes de Suisse s'est réunie parce qu'il y avait une loi en Suisse qui allait paraître sur l'avortement, une nouvelle loi sur l'avortement, bien sûr, pour élargir le cadre. Et la Suisse n'a pas la culture laïque française, et le législateur suisse, donc le Parlement suisse, interroge les églises, hein, avant de faire les lois. Pour un Français, c'est pas exactement l'ambiance habituelle. Bien. Et la Fédération des Églises protestantes suisses a donc été interrogée pour donner son avis. Et j'ai lu le texte final. Impossibilité d'être d'accord entre eux sur une détermination morale concernant l'avortement. Autrement dit, chacun étant renvoyé à sa conscience. Bien. Je n'ai rien contre la conscience, rassurez-vous. Mais de savoir si le fœtus est un être humain ou pas, ce n'est pas ma conscience qui va en décider. Il l'est ou il ne l'est pas. Mais voyez jusqu'où ça va. Donc attention, quand on parle du protestantisme, hein, de ne pas mettre dans le même sac, si vous voulez, des communautés qui peuvent être extrêmement différentes et parfois même incompatibles entre elles. N'est-ce pas ? Donc, il faut aller vraiment, il faut remonter au stade des fondements, hein, pour voir le socle, si vous voulez, commun de cette pensée. Et c'est d'un point de vue, bien sûr, catholique, que je vais essayer de décrypter ce fondement de cette source d'où provient le protestantisme, y compris dans toute sa variété. Le protestantisme est fondamentalement une mémoire d'un événement unique dans l'histoire, le Christ, il y a 2000 ans. Et cette mémoire est rendue possible parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées il y a 2000 ans dont on n'a absolument pas gardé la trace. Hein, mais de ça, si. Cette mémoire est rendue possible par l'Écriture sainte. Et elle est entretenue, bien sûr, grâce au recours à l'Écriture sainte, génération après génération, et grâce à ces actes mémoriels contenus dans l'Écriture sainte, dont le principal est la Sainte Cène. Par conséquent, il faut sans cesse, dans une perspective protestante, il faut sans cesse remonter par-delà 20 siècles au fait Jésus-Christ qu'il faut essayer de retrouver dans toute sa pureté. Tout ce qui nous sépare de ce fait unique, 2000 ans d'histoire, constitue un risque de déformation, d'impureté, de perte d'authenticité. Ceci est vraiment une vision extrêmement profonde dans le monde issu de la Réforme. Les conséquences sont assez claires et elles ont été immédiatement tirées par les premiers réformateurs. La Sainte Cène est un souvenir. Un rite symbolique rappelle ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Ce n'est pas la présence corporelle ici et maintenant du Seigneur. Et le Christ n'étant pas présent, la Sainte Cène ne peut pas être l'offrande du Christ à son Père au sens réel. C'est une mémoire. Mais elle ne peut pas être au sens réel l'offrande du Christ à son Père, offrande dans laquelle nous aurions à entrer nous-mêmes réellement tête et corps, faire un dans ce mouvement d'offrande. Le Christ ne continue pas à nous toucher dans les sacrements, et d'ailleurs les réformateurs ont exclu tous les sacrements sauf la Sainte Cène et le baptême. L'Écriture seule est la règle de foi. Le Christ ne continue pas à nous parler et à nous enseigner par ses envoyés. C'est l'Esprit Saint qui ouvre chaque fidèle à la compréhension de l'Écriture quand il ouvre la Bible. Il s'ensuit, et c'est une note très perceptible dans le protestantisme, un très fort individualisme. Les autres conférences le montreront certainement, mais je retiens simplement pour maintenant l'exemple suivant. Seule l'Écriture contient la parole de Dieu. Celle-ci n'est pas présente, la parole de Dieu, dans ce que catholiques et orthodoxes appellent la tradition, avec un T majuscule. Il n'y a pas de magistère apostolique chargé de prêcher la révélation avec une quelconque garantie de vérité. Dès lors, chaque fidèle protestant, éclairé individuellement par l'Esprit, a accès à l'Écriture pour la comprendre de son point de vue. Il est clair que cette perspective individuelle, suivie intégralement, va inévitablement vers la plus grande dispersion des opinions. C'est pourquoi il y a de fait dans le protestantisme une sorte de substitut du magistère, et je dis bien, je suis prudent, hein, une sorte de substitut du magistère assuré par les universitaires biblistes. On ne peut quand même pas dire n'importe quoi à partir de la Bible. Vous savez, le système, ce qui me frappe, ce que je vois, oui, je ne peux pas dire n'importe quoi non plus. Bien. C'est d'ailleurs à ces universitaires biblistes protestants que l'on doit le début, l'initiative des études bibliques modernes au XIXe siècle. Mais la limite de ce procédé, qui évite quand même des divergences d'opinion extrêmes, si je puis dire, la limite de ce procédé, c'est que les biblistes ne sont pas toujours d'accord entre eux. Et leurs écoles et leurs théories évoluent beaucoup. Ce qui faisait consensus il y a 20 ans, aujourd'hui plus personne n'en parle. On a changé de registre, par exemple. Et bien sûr, ils n'ont aucune autorité contraignante. Les biblistes ne sont pas fondés dans l'Écriture sainte. Et c'est ainsi que nous avons des divergences d'opinion qui peuvent être considérables chez nos frères protestants. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des pasteurs à Genève pour lesquels la divinité de Jésus-Christ n'est pas si évidente que ça. Je voudrais, pour le temps qui me reste, après avoir présenté, si vous voulez, hein, ce Christ seul, ou bien, perspective catholique orthodoxe, le Christ total, je voudrais proposer un regard sur la réforme initiée par Luther. Il faut rendre une justice à Luther. Il ne voulait pas fonder une église parallèle. Il voulait la réformer, d'où le titre d'ailleurs de la réforme et des réformateurs. Mais de fait, et inévitablement, et même rapidement, Luther s'est retrouvé dehors. Pourquoi et comment ce désir de réforme est-il devenu une séparation ? L'Église, c'est-à-dire vous et moi, hein, la communauté chrétienne, parce qu'elle assume la condition humaine, qui est la vôtre et la mienne, est toujours à réformer. Hein, le fameux adage « Ecclesia semper reformanda » qu'on peut faire remonter à saint Augustin est loin d'être une nouveauté. Pour l'histoire du deuxième millénaire, pour faire bref, parce que ça pourrait être long, nous avons la réforme grégorienne du XIe siècle, qui a libéré la communauté chrétienne de la tutelle des princes, c'est pas rien. Vous avez la réforme des cisterciens, aujourd'hui les trappistes, au XIIe siècle, qui a réformé le monde monastique. Vous avez la réforme des ordres mendiants, au XIIIe siècle, qui a réformé la prédication chrétienne, etc., etc. Le Concile Vatican II doit être aussi lu et reçu comme un concile de réforme. Il y avait des réformes à faire. Pourquoi ? Pour que l'Église soit en mesure d'être plus et mieux présente au monde moderne. Et sacrée réforme. À l'époque de Luther, première moitié du XVIe siècle, l'Église devait être réformée principalement au plan de ses mœurs et tout particulièrement des mœurs du clergé. On disait à cette époque, à Naples, « Si tu veux aller en enfer, fais-toi prêtre. » Alors, le pape Adrien VI, un pape hollandais, a envoyé un ambassadeur à Luther, en 1523, pour essayer d'éteindre l'incendie. Et voilà un extrait de la lettre d'Adrien VI à son ambassadeur. « Tu dois dire, sous-entendu donc dans ta rencontre avec Luther, tu dois dire que nous reconnaissons librement que Dieu a permis cette persécution de l'Église, c'est-à-dire la fracture de la Réforme, à cause des péchés des hommes, et particulièrement des prêtres et des prélats. Nous savons que, même sur le siège apostolique, c'est-à-dire le pape, depuis de nombreuses années, beaucoup d'abominations ont été commises. Nous tous, prélats et ecclésiastiques, nous nous sommes détournés de la voie de la justice. Ces dérives morales se traduisaient dans des pratiques tout à fait scandaleuses, de vente des biens spirituels, notamment les indulgences, qui donnaient aux fidèles, bien sûr, une fausse conception du salut. Faire son salut à l'époque se réduisait, à entendre certains prédicateurs, à avoir les moyens de payer. Je vais vous faire une petite confidence, ce n'est pas dans le texte. Chaque fois que je suis à Rome et que je vais place Saint-Pierre, je suis ébloui par la beauté du cadre, surtout des belles journées romaines, mais j'ai toujours un malaise. Parce que la basilique Saint-Pierre a été construite en partie avec cet argent. On comprend aisément que Luther, religieux, augustin, très observant, ait été horrifié par ce spectacle. Mais il avait un tempérament à la fois excessif et scrupuleux, même angoissé, et il ne se limita pas à la question morale, qui se posait très réellement, mais très tôt, dès 1520, se plaça sur le terrain dogmatique, avec la question très tranchée de la justification. Alors c'est la foi seule, etc. Alors dans l'histoire de l'Église, qui est Saint-Père Reformanda, dans l'histoire de l'Église, il y a des réformes qui ont réussi, parce qu'elles n'ont pas divisé la communauté, elles l'ont renouvelée, et puis il y a des réformes qui ont échoué parce qu'elles ont divisé les chrétiens. Et pour terminer, je voudrais visiter avec vous quelques conditions d'une réforme réussie. Et la question n'est pas qu'historique, d'ailleurs je ne suis pas historien. La question est d'une brûlante actualité. Vous le savez, je l'ai déjà dit, le Concile Vatican II a cet aspect aussi de concile de réforme. Eh bien, nous avons connu, juste après le Concile Vatican II, une division des chrétiens supplémentaire avec la séparation des fidèles qui ont suivi Mgr Lefebvre. Réforme réussie ou réforme manquée, le critère sera séparation ou pas. Ce que nous allons dire, si vous voulez, à propos de la réforme luthérienne, reste par conséquent d'une brûlante actualité. Quatre conditions doivent être réunies, si je puis dire, pour qu'une réforme nécessaire réussisse. La première, c'est la primauté de la charité. Celui qui a l'intuition très juste d'une réforme à promouvoir court le risque, s'il ne voit que ça, il court le risque d'isoler son propos de tout le reste. Il y a toujours chez les réformateurs un certain unilatéralisme. Ils voient très bien une partie du tableau, mais pas tout le tableau. Et Luther en est un exemple extrême. Alors que dans les réformes qui ont réussi, on voit très bien qu'à partir d'une perception très vive et très juste d'une partie du tableau, le vrai réformateur est revenu à tout le tableau. Saint Bernard, Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola, enfin des grands réformateurs, n'est-ce pas, hein, de réformes réussies. À partir de ce qu'ils avaient vu, hein, ont pris toute la dimension, hein, ont vu tout le tableau et non pas uniquement ce qu'ils avaient vu. Ou si vous préférez, bien que ces réformateurs, Saint Bernard, c'était pas un tiède, hein, Saint François d'Assise non plus, Saint Ignace non plus, ce sont des personnes qui n'ont pas constitué un système à partir du point particulier qu'ils avaient vu. Pour ne pas briser l'unité des fidèles, il faut savoir aller à la limite de ce que l'on peut dire et faire, mais pas au-delà. Et ce sens de la limite et de l'unité, pour ne pas briser l'unité, justement, c'est la charité qui le donne. Car c'est toujours la charité qui est en jeu. Il faut avoir une pureté de charité particulièrement profonde, parce qu'il ne faut pas troubler, mais clarifier. Et parfois la nuance entre les deux est minime. Il faut construire et non pas détruire, en tout cas. Et l'hymne à la charité de saint Paul, 1 Corinthiens 13, dit bien que sans la charité, rien n'a de valeur, même pas la foi. La foi sans la charité, zéro. Alors, à plus forte raison, l'intuition du réformateur fut-elle très juste, car Luther avait vu juste un certain nombre de choses. Et la charité, elle se manifeste dans le très concret des choses. Elle est souple, mais pas désarticulée. Mais elle rend sensible aux nuances. Elle rend sensible aux personnes réelles et non pas abstraites. Deuxième condition, on ne réforme que à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Rester dans la communion du tout. Pour réussir une action réformatrice, à supposer qu'on en ait le charisme, mais je suis prêt à le reconnaître à Luther, hein, réussir une action réformatrice demande qu'on reste toujours en contact vivant avec tout le corps de l'Église. Le Saint-Esprit est l'âme de ce corps. Et comme l'âme dans le corps humain, l'Esprit Saint fait l'unité de tous les membres du corps. Si l'on se sépare, c'est de l'Esprit Saint qu'on se sépare. L'Esprit Saint est l'Esprit de toute l'Église. C'est pourquoi notre vie est profondément communautaire. Ce n'est que dans ce lien si fort au tout de l'Église que je suis assuré, moi, personne individuelle, d'être dans la vérité et la bonté de l'Évangile. Il y a aussi, dans cette condition de rester dans l'unité du tout, un aspect de prudence. Qui suis-je, moi, si génial suis-je, qui suis-je, moi, pour affirmer avoir raison contre tous les autres? Un grand génie intellectuel, spirituel, peut bien voir avant les autres telle ou telle vérité, bien sûr, mais il ne la réalisera jamais seul. Cette nécessité absolue de rester dans le tout, comme une partie du tout, est exprimée clairement par la première communauté de Jérusalem. Ils étaient assidus à quoi ? À l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Le tout, il est là, et moi je suis dedans. Troisième condition, la patience ou le sens des délais. Un mouvement de réforme peut être bien profond et vrai dans ses sources, il court toujours le risque immense de tout gâter par l'impatience. Il faut avoir ici le sens du temps nécessaire à la maturation des choses, comme les agriculteurs l'ont, ou mieux encore, comme les parents que vous êtes l'ont pour les enfants. On ne demande pas à un enfant de 5 ans ce qu'on pourra légitimement lui demander 5-10 ans plus tard. Maturation. Et le temps est l'espace dans lequel nous maturons, si je puis dire. C'est la nécessité des germinations lentes qui est une constante dans l'histoire de la communauté chrétienne. Il est vrai qu'il ne faut pas confondre cette nécessité des germinations lentes avec la paresse, la lâcheté, qui, elles, sont source de retard et non pas de maturation lente. Mais parlant de patience, je ne parle pas seulement de chronologie. Je parle de ce temps qui est nécessaire pour décanter une intuition. Je parle aussi de ce temps qui est nécessaire pour sculpter l'humilité du réformateur, car il faut être humble pour prétendre réformer l'Église. Voyez, on reste un peu songeur quand on réalise que Calvin a achevé son maître livre, l'Institution chrétienne, à l'âge de 27 ans. Et son compagnon, Michel Servet, lui, avait achevé le sien à l'âge de 20 ans. Je veux bien que le génie soit précoce. Mais enfin, il y a aussi parfois quelques légèretés d'esprit dans des prises de position aussi tranchées. Comment voulez-vous justifier le fait que l'on récuse absolument toute idée de sacrement de l'ordre, alors que ça fait 15 siècles que l'Église unanime le pratique? Qui suis-je, moi, pour dire depuis 15 siècles tout le monde se trompe, mais moi j'ai raison? Enfin, quand même, un peu de bon sens, me semble-t-il, pourrait éviter un certain nombre de choses. Là où il n'y a pas cette patience, ce temps du temps, de la lenteur et compagnie, autrement dit, là où il y a hâte, eh bien, il n'y a pas réforme, mais révolte. Et c'est pas la même chose. Bien sûr, le réformateur doit s'attendre, quelle que soit sa vertu, quelle que soit la lente maturation qu'il a laissé faire en lui, il doit s'attendre à rencontrer la résistance et parfois même la persécution. Nous avons un certain nombre de réformateurs, Saint Jean de la Croix, Saint Ignace de Loyola, etc., qui ont connu bien évidemment la résistance, et même la prison, et la prison ecclésiastique, bien sûr. Quatrième et dernière condition, une réforme est un renouvellement et non pas une nouveauté. Je voudrais vous rendre attentif ici à la différence profonde qu'il y a entre renouveler quelque chose ou faire du nouveau. Le renouvellement s'accomplit en dégageant aujourd'hui l'identité profonde et constante du christianisme pour le rendre, ce christianisme, apte, après discernement, à intégrer les données propres à chaque époque dans laquelle il est. Mais c'est toujours le christianisme. Alors que la nouveauté est exactement l'inverse, c'est une idée, une intuition qui naît en dehors et qui rentre dans le christianisme en expulsant tout ce qui lui est incompatible. Dans le premier cas, renouvellement, il y a une continuité vitale du christianisme. Dans le second cas, il y a une rupture. Le renouvellement, voyez-vous, vient de l'intérieur. La nouveauté vient de l'extérieur. Luther aurait pu contribuer à renouveler la communauté chrétienne en rappelant, par exemple, que la foi dogmatique, le credo, repose sur la foi confiance, c'est-à-dire sur une relation personnelle, profonde, intime avec Dieu. Hein, c'est le je crois, ceci, cela, mais c'est d'abord un jeu. Et par là, il aurait revivifié Luther, le désir de Dieu, et aurait permis de bien situer la foi dogmatique avec la foi confiance. Au lieu de cela, lié qu'il était d'ailleurs au mouvement culturel de la Renaissance, qui mettait en avant l'individu, Luther a fait de la foi-confiance quasiment le tout de la foi, évacuant ainsi la foi dogmatique. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Si Vatican II a pu être un concile de réforme et en profondeur de la communauté chrétienne, c'est parce que ce concile est intervenu après plus d'un siècle de renouveau biblique, liturgique, dogmatique, moral, patristique, historique. La fécondité du siècle qui précède Vatican II est considérable et quasiment unique dans l'histoire, en volume. Et ce ressourcement a permis les discernements de Vatican II qui donne un renouvellement et non pas des nouveautés. Vouloir réconcilier l'Église avec le monde moderne, c'est une tâche qui nous incombe, ne pourra jamais se faire en faisant une sorte de copier-coller d'idées modernes pour les faire rentrer dans l'Évangile. Ça se fera si nous scrutons en profondeur toute la vérité de l'Évangile, et qui permettra de décanter et purifier les intuitions modernes pour les accueillir, mais décanter, purifier, pas telles quelles. Je conclus d'un mot, si vous voulez. Le mouvement œcuménique moderne, parce que l'œcuménisme a commencé du vivant même des apôtres, hein, il n'y a qu'à lire les épîtres, les faux docteurs, etc. Enfin, bon, passons. Mais le mouvement œcuménique moderne a commencé à la fin du XIXe siècle, chez nos frères protestants, et il s'est développé jusqu'à nos jours pour tenter de refaire l'unité des chrétiens. Des avancées profondes ont été accomplies, et il faut s'en réjouir évidemment, mais je voudrais pour finir rappeler un point important. Les séparations dans la communauté chrétienne proviennent soit d'une rupture de la charité, ça s'appelle un schisme, soit d'une rupture dans la foi, ce qui s'appelle une hérésie. La rupture de la réforme est une rupture dans la foi. Mais dire que la réforme est née d'une hérésie ne signifie pas que les protestants actuels soient personnellement des hérétiques. Ce n'est pas pour être gentil avec les protestants qu'il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas hérétiques. C'est parce que ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'il faut être aussi gentil avec les protestants. Hein. Mais c'est parce que ce n'est pas vrai. Le péché d'hérésie qui est à l'origine d'une séparation n'est pas une sorte de péché originel qui se transmettrait aux générations futures. Nos frères protestants actuels n'ont pas personnellement commis ce péché. Ils sont de bonne foi membres de leur communauté et il y a des saints parmi eux et notamment des martyrs. Et on n'est pas martyr d'une communauté chrétienne, on est martyr du Christ. On ne doit pas cependant conclure que la division actuelle des chrétiens ne serait plus un mal. Elle est toujours profondément contraire au dessein de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons continuer à faire tout notre possible pour parvenir à l'unité. De plus, il ne faut pas oublier que si c'est bien Luther qui a claqué la porte, et pas les catholiques l'ont assez poussé à cela, en raison de l'état moral pitoyable de la communauté chrétienne à cette époque. Certes, vous me direz, moi, je n'existais pas au XVIe siècle. Ce n'est pas moi, catholique du XXe, XXVIIIe siècle, qui ai poussé Luther dehors. C'est vrai. Mais nous pouvons être responsables aujourd'hui, non pas de la fracture d'il y a 5 siècles, mais du fait que cette fracture demeure, dure. Parce que si nous n'avons pas aujourd'hui une profonde, vraie, sincère attitude écuménique, eh bien, nous faisons durer cette situation-là. Le pape Jean-Paul II dit que l'attitude écuménique est un impératif de la conscience chrétienne. Ce n'est pas à choix, comme on dit en Suisse. Hein. C'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle l'écuménisme spirituel, qui est l'âme de tout le mouvement écuménique, prier ensemble, agir ensemble par des œuvres de charité, s'abstenir de comportements blessants. Tout cela est une obligation de conscience pour tous les chrétiens, à quelque communauté qu'ils appartiennent. Il faut bien sûr être clair sur ce qui nous sépare. Je crois avoir essayé de l'être devant vous. Et ce ne sont pas des détails. Luther n'a pas claqué la porte pour des queues de cerises. Ce serait d'ailleurs lui faire injure que de le penser. Il convient, c'est vrai, d'éviter tout relativisme, tout faux irénisme, tout réduire à une sorte de diplomatie où chaque parti devrait faire des concessions. Je lâche le pape et vous acceptez l'Immaculée Conception, ça marche comme ça, hein? Tout ça, c'est inférieur à la grâce de l'écuménisme. Il faut, et je terminerai par là, ouvrir véritablement notre cœur à toutes les impulsions de l'Esprit de Dieu qui veut cette unité et qui veut que nous la fassions. Merci, je vous remercie.
C'était la deuxième conférence du temps de Carême avec pour intervenant frère Benoît Dominique de la Saujolle. À la semaine prochaine et bon Carême à tous.